Voilà, que Dieu soit béni.
Amen.
Alléluia. On est réunis en son nom, dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et si je suis devant vous, c'est une grâce. Si nous sommes ici, c'est une grâce de toute façon. Une grâce incommensurable de son amour pour nous. Et si je peux rapporter eh bien, les merveilles de Dieu, comme nous pouvons le lire dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14, verset 27, où il est écrit, si vous ouvrez cette Bible, je vais la lire, l'ouvrir tout de suite en même temps. Voici, c'est Paul et Barnabas qui reviennent de leur premier voyage missionnaire. Ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont beaucoup de comptes rendus à apporter. Et voici qu'ils vont se retrouver à Antioche. Et le verset est très clair, Actes 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. On aurait beaucoup à dire, c'est un verset tellement grand et tellement profond. Simplement, la pensée ce soir, c'est que nous sommes là parce que déjà, nous ne sommes pas invités, mais nous sommes convoqués. C'est une convocation spirituelle, convocation sainte à la présence de Dieu. D'entendre ce que Dieu fait à travers des hommes et des femmes, il peut faire sans nous, il n'a pas besoin de nous, mais il fait à travers ces hommes et ces femmes que vous êtes, que nous sommes, car nous sommes ensemble. La mission, ce ne sont pas des hommes et des femmes aventuriers qui partent parce que ça leur plaît, mais ils ont répondu à un appel, ils ont répondu à quelque chose que Dieu a mis sur leur cœur, un fardeau, ils se sont préparés, mais ils ont aussi, eh bien, ils sont envoyés par l'Église, car je dirais, le maître mot de l'Église, c'est de missionner. Alléluia, c'est d'aller de la Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde, en passant par la Judée, en passant eh bien, par la Samarie, en passant par nos voisins, en passant même par nos ennemis. C'est cela aussi, c'est l'Église qui missionne. Et puis, si nous sommes là, si je suis là ce soir devant vous, eh bien, suite à l'invitation des serviteurs de Dieu, des bergers, bien sûr, pour moi, c'est une grande joie. Nous parlions tout à l'heure, alors que nous étions à table, de réunions où on est des fois 5000 ou plus, mais qu'on soit devant une personne ou que l'on soit devant des milliers, ce n'est pas la foule qui compte, mais c'est le prix d'une âme. Alléluia. Béni soit Dieu. Le message est le même, exactement le même, et nous sommes là dans cette vision-là. Alors, je suis parmi vous, au milieu de vous, avec le privilège de pouvoir rendre témoignage et en commençant par vous remercier par vos prières. Remercier par votre consécration, votre soutien aussi dans votre libéralité, car si la mission telle que l'action missionnaire est, c'est-à-dire la mission des Assemblées de Dieu de France depuis tant d'années, tant de décennies, c'est parce que derrière les églises eh bien, sont fidèles dans leur engagement, fidèles dans leur prière, leur intercession, dans le jeûne aussi, car bien souvent eh bien, sur le terrain, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les hommes et les femmes qui sont là, mais aussi les pasteurs locaux, les églises, les fidèles de ces églises, les nouveaux convertis qui sortent de l'animisme, qui sortent de l'islam, qui sortent bien, eh bien d'un courroux de totalitarisme, pour parler des pays communistes, ne serait-ce qu'en Asie du Sud-Est, eh bien, ils ont besoin d'un soutien spirituel. Autant Dieu entend nos prières, nos besoins personnels et privés, autant il entend aussi vos prières pour les besoins au loin. Alléluia. Et nous sommes ensemble dans le service. Pour ma part, c'est donc un privilège d'être parmi vous et de rendre ce témoignage. Alors, il y a un petit PowerPoint qui a été monté. On l'a monté avec les frères de la mission. Il est global, il est un peu général, il est peut-être un peu technique, et c'est simplement une présentation. Et il mérite après, eh bien, au contraire, d'aller plus loin dans la réflexion, dans le partage. Et si nous voulions parler de mission, on pourrait passer des heures, voire des jours. Je me rappelle en d'autres époques, où moi-même, avec mon épouse, nous assistions au séminaire missionnaire qui se tenait, par exemple, au Terre Sainte. Et notre pasteur ici même était mon professeur. Et j'ai grandi, non pas sur ses genoux, mais sur les bancs eh bien, de son enseignement, bouleversé par l'œuvre du Saint-Esprit, sans savoir ce que Dieu ferait de nous plus tard. Et puis, Dieu a écrit son histoire dans nos vies et il continue à le faire. Gloire à Dieu! Alors, je voudrais vous présenter un petit peu l'action missionnaire. L'action missionnaire, donc, je ne parle pas d'association par elle-même, on ne va pas parler d'administration, on parle de la vision, de ses valeurs, de son cœur de mission. c'est tout simplement l'émanation des églises locales de France, c'est l'émanation du mouvement des assemblées de Dieu, et sa vision, c'est bien sûr de prêcher le plein évangile. Alléluia. Alors on a départagé un petit peu des actions aujourd'hui, en 2015-2016, eh bien, on parle des champs missionnaires où des missionnaires se trouvent actuellement. Vous avez le listing à côté, je ne vais pas faire la liste, ce serait trop long, hein, vous pouvez lire plus vite que je ne peux le lire moi-même. Et donc vous avez le continent africain, vous avez le Proche-Orient avec le Liban, Israël, et vous avez l'Asie du Sud-Est avec le Vietnam. Là, c'est là en ce moment, actuellement, des missionnaires se trouvent. Puis on va passer à la page suivante. Là, ce sont des endroits où nous sommes tout autant engagés, mais nous n'avons plus de missionnaires sur le terrain. Mais les missionnaires rentrent, mais le travail continue. Et la mission, par elle-même, est toujours engagée, pas que financièrement, mais il y a un suivi. Nous travaillons avec des églises nationales aujourd'hui, dans ces pays, des églises officielles qui ont leur quartier général, puis des églises officieuses, cachées, mais elles sont organisées. Nos frères sont là, ils travaillent, et nous allons les aider dans le service. Pas simplement côté financier, je disais, mais organisationnel. On va être quelque part des facilitateurs. Alors, vous avez le listing de ces pays. Là, on était un peu plus loin. Ce sont les anciens champs avec un partenariat ou un contact. C'est-à-dire que nous ne sommes plus engagés dans ces pays. Par exemple, vous voyez, pour ceux qui connaissent l'Afrique, vous avez la Côte d'Ivoire. Nous sommes en excellente relation avec nos frères. Nous allons par exemple travailler avec eux quand nous nous sommes retirés de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, c'est à l'extrême ouest de l'Afrique. Eh bien, nous n'avions plus de responsables à mettre à l'institut pastoral. C'était un missionnaire ivoirien qui est venu. Mais c'est la mission française qui l'a pris en charge, qui soutient encore ce frère. Donc, il y a une collaboration avec ses anciens champs. Là, ce sont d'autres champs qui sont en contact avec nous, qui nous ont demandé que l'on soit engagé avec eux, ou des anciens champs à l'époque, mais nous ne sommes plus en contact directement, officiellement. Mais il y a un travail de fond qui se fait, des visites se font. Alors vous avez en Asie, vous avez celle qu'on appelait la Birmanie auparavant, la Thaïlande, vous avez le Népal, vous avez l'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya, le Burundi, le Rwanda, vous avez le Ghana, et Madagascar qui aurait pu être en fait dans une autre couleur maintenant. Et puis, la cinquième phase, c'est cette phase où aujourd'hui, des champs, soit des anciens champs il y a très très longtemps, nous demandent d'intervenir. Alors vous en avez en plein Afrique, le Centrafrique, en plein cœur. Vous avez un tout petit point en allant vers le Yémen, c'est Djibouti. Et je vous en parlerai tout à l'heure de Djibouti. Vous avez le plus grand pays musulman au monde, l'Indonésie, en Asie. Et vous avez, on l'a mis dans un cercle parce que géographiquement il n'est pas là, c'est Haïti dans les Caraïbes. Voilà. Ce sont ces quatre pays qui demandent, qui sollicitent, qui appellent et qui ont besoin qu'on puisse s'impliquer, soit en envoyant un missionnaire, des missionnaires, ou soit en s'engageant dans des actions ponctuelles suivies. Voilà, en collaboration toujours avec les églises. La mission, c'est avant toute chose apporter le plein évangile, la bonne nouvelle. Il y aurait beaucoup à dire, les photos sont explicites mais un peu réductrices de la pensée. C'est l'implantation d'église, l'évangélisation, l'implantation d'église, la formation aussi. Voilà, on va aller un peu plus doucement. Formation des pasteurs, des diacres là, alors quand on dit les diacres, ce sont ceux qui ne sont pas pasteurs, ils ont un métier à côté, mais ils sont prédicateurs. Ils ne parlent pas la langue officielle de la capitale ou les langues officielles. Nous, en France, nous avons une langue officielle, le français, bien sûr. Mais il y a d'autres langues qui ne sont pas des dialectes, mais d'autres langues qui, par région parfois, eh bien, sont enseignées. Et on peut même continuer ses études dans ces langues-là. Mais la langue administrative, c'est le français. Il y a des pays où vous avez 600 langues. Et il n'y a pas une langue officielle. Et il y a des endroits où la langue qui est parlée à la capitale n'est pas comprise à l'intérieur du pays. Encore moins le français, encore moins l'anglais, ni l'espagnol, ni le portugais. Et quand on dit, voilà, il y a des églises à tel endroit, on annonce le plein évangile, il y a des gens qui entendent la grâce de Dieu et se convertissent. Merci Seigneur, ça touche un peuple, une ethnie, deux peuples, trois ethnies. Mais ça ne touche pas tout le pays. Par exemple, le Nigeria, nous ne sommes pas engagés directement là-bas, bien que pour diverses raisons, nous sommes en contact avec eux. Il y a des églises à Lagos où vous avez 30 000 membres. Puis vous tournez la rue à côté, il y a une autre église, 10 000 membres. Et puis dans le nord du pays, les chrétiens, ben, quand ils se convertissent, l'espérance de vie, elle n'est pas grande. Hein. Au contraire, parce que ce sont des ethnies où le monde de l'islam, voire beaucoup haram, extrémiste. Et les chrétiens, eh bien, quand ils vraiment donnent leur cœur à Jésus, savent que leur vie est, et leur temps de vie est compté. Et pourtant, c'est le même pays. Mais ce ne sont pas les mêmes ethnies, ce ne sont pas les mêmes peuples. Voilà. La formation, formation pastorale, la formation en langue locale, alors que vous avez plusieurs... Là, on voit le frère Michel Fred en haut à gauche. Vous avez en haut à droite, c'est le Cambodge. En bas à droite, il y a un mois, c'était Madagascar. Les frères prédicateurs étaient enseignés en zone musulmane. Et en bas à gauche, c'est le Vietnam dans une réunion secrète. Formation pastorale, on va continuer. Là, vous avez d'autres formations. Alors, ça peut être des formations diplômantes, comme en haut à gauche, c'était la remise des diplômes. Après 3 années d'études, c'était au Tchad. En haut à droite, c'est l'Institut à Brazzaville, au Congo, qui est sous la supervision du missionnaire Serge Renaud, Serge et Catherine Renaud. Voilà. Et en bas à droite, c'est le Vietnam. Alors, on va continuer. Alors, on parle de construction. Là, en haut à droite, vous êtes au Liban, à Tripoli, avec le frère Robert Zakia. Construction de bâtiments. Construction d'écoles. Pourquoi des écoles? Notre frère, M. Maréchal, ici présent, a visité l'école Abraham au Sénégal. Nous sommes en plein zone musulmane. Nous sommes au milieu des, non pas des Wolofs, mais des Sérères et des Peuls. Les Peuls, c'est le plus grand peuple africain, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique de l'Est. C'est les gitans de l'Afrique. C'est les nomades. Ils sont 100% musulmans. Et là, si on veut compter les quelques peuls convertis, il y en a quelques-uns. On a même un pasteur qu'on connaît qui est marié avec une de nos missionnaires. Mais ils sont tellement rares. Donc, un terrain a été acheté, on a monté une école, l'école est en train de se monter. Aujourd'hui, il y a plus de 100 et quelques enfants. Et 98% des enfants sont de familles musulmanes. Ces enfants, quand ils rentrent à la maison, chantent Jésus. Ils, dans leur langue. Les parents veulent les faire taire, mais les enfants rendent témoignage. Et les parents, à un moment donné, eh bien, viennent nous voir. Et cet an dernier, le pasteur de là-bas m'expliquait qu'à la fin des cultes, à chaque fin de culte le dimanche, vous avez une vingtaine de personnes à la sortie, ce sont les musulmans, ils ne rentreront pas au culte, mais ils veulent qu'on vienne prier pour eux, pour la guérison. Alors c'est un contact. Après, il faut qu'ils entendent le plein évangile, bien sûr. Hein. Mais plusieurs voyants, on va continuer. Voilà, là vous avez la pomponnière Josheba, au Burkina Faso. En haut à droite, c'est l'école Salomon au Cambodge, à Phnom Penh. En bas à gauche, c'est l'école Siloé à Dakar, au Sénégal. Et en bas à droite, c'est une école qu'on essaye de réouvrir à Bangui, au Centrafrique. Ce sont les impacts de grenades contre le mur, suite aux événements de ces mois passés. Et puis, il y a la traduction. En haut à gauche, vous avez eh bien, le travail. C'était la dédicace du Nouveau Testament en Awedeba. Dans le nord du Togo, j'étais là. Alors bien sûr, là, il y a un prêtre catholique qui est là. Mais derrière, tous les techniciens, tous ceux qui travaillent, ce sont des frères et sœurs évangéliques, voire assemblées de Dieu. Et derrière, nous soutenons eh bien, des jeunes prédicateurs avec maintenant ce Nouveau Testament dans cette langue-là. On ne parle pas le Mina, la langue du pays, de la capitale. C'est une autre langue. Et aujourd'hui, nous soutenons un responsable de projet qui traduit l'Ancien Testament dans cette langue-là. En haut, nous avons notre sœur Eva, qui est au Sénégal. Elle est en train de travailler le Wolof, mais le Wolof moderne, c'est le nouveau Wolof. Comme il y a eu un mélange de peuples à cause de la désertification, beaucoup de peuples sont arrivés sur la côte africaine, et le Wolof a changé le Wolof. La Bible en Wolof existait, mais les gens la lisent et ne la comprennent pas. C'est plus du tout le même Wolof. Alors, il faut retravailler. Et notre sœur est en plein travail d'exégèse. On va plus loin, s'il vous plaît. Voilà, là aussi, nous avons reçu des informations ce matin du frère André Aguila, notre frère André Aguila, missionnaire depuis plus de 25 ans maintenant eh bien, basé au Burkina, mais travaillant en fait en RDC, Congo démocratique. Et il travaille dans la zone Est, vous savez, là où il y a les combats. Il y va régulièrement avec son épouse. Ils y vont deux fois par an sur une période de 2 mois, 3 mois. Et là, de nouvelles langues viennent d'avoir leur Nouveau Testament. Et avec cela, eh bien, on peut prêcher l'Évangile. Il y a la formation pastorale derrière, formation des prédicateurs. Et je parlais dernièrement avec notre frère, j'étais au Niger avec lui, et nous parlions, nous étions dans un séminaire pour le monde musulman. Et au Soudan, en Éthiopie, en Somalie, aujourd'hui on ne peut pas ouvrir une église. Vous ouvrez une église, si vous êtes vivant le lendemain, c'est déjà une grâce. Alors le peuple de Dieu a dit, Seigneur, mais donne-nous, là, comment on peut faire, donne-nous une solution. L'évangile est toujours prêché, bien sûr. Ils ne peuvent pas se réunir plus de 3 personnes à la fois. Tout rassemblement au-delà de 3 personnes est interdit. Donc ils se retrouvent, ils entendent la parole de Dieu, et puis chacun va partir dans un endroit, va évangéliser. Et en fait, chaque chrétien devient prédicateur, annonce l'évangile par la force des choses, et crée son église. Et au bout de 3, encore, ils se séparent. Certains même vont se retrouver pour annoncer l'évangile et partager l'évangile, ça va vous surprendre, mais ce témoignage, eh bien, ils vont se retrouver même dans des mosquées. Parce qu'il n'y a pas d'autre lieu de culte, entre guillemets, que la mosquée. Donc ils vont aller, ils vont se mettre à genoux, mais ils ne vont pas dire Allah Akbar. Ils vont parler de Jésus, ils vont prier Jésus. Voilà. Ils sont réduits au silence, mais personne ne peut nous empêcher de prier pour que la bonne nouvelle soit propagée. Alors on continue. Alors là, il y a la santé, bien sûr. Nous avons au Burkina Faso un centre de santé qui est devenu le plus grand pôle médical privé du pays, le centre Chifra, avec nos missionnaires qui sont implantés là-bas, qui travaillent, et des ONG médicales nous ont aidés, et l'évangile est apporté tous les jours. J'étais encore, il y a quelques mois de cela, au Burkina, je parlais avec notre Marie-Claire Traoré, elle me disait, il ne se passe pas un mois, sans que des gens se fassent baptiser suite à la prédication du matin. Alléluia. Tous les jours, dans tous les services, le message est apporté. Tous les jours, il y a un prédicateur. Béni soit le Seigneur. Et quand nous allons les visiter, ça ne loupe pas, nous y passons aussi. Hein. Voilà, on va prêcher l'évangile, il faut être concis, on a 10 minutes. Et en 10 minutes, il faut tout dire. Voilà, hein. C'est un haut exercice, mais c'est concis, on prêche la croix, on prêche le Fils de Dieu aux musulmans, mais il faut le dire autrement, mais on le dit quand même. Et certains d'entre eux se convertissent, et les églises en bénéficient. Béni soit le Seigneur. Voilà, la santé aussi, alors là on voit toute forme de prestations, que ce soit la prévention, comme en bas à gauche, que le bloc opératoire, que ce soit eh bien, en haut à droite au Vietnam, en haut à gauche c'est au Mali, à Bamako, voilà, au centre de santé de l'Hippodrome, des ONG chrétiennes telles que l'Action Humanitaire Médicale Internationale, l'HMI, qui est à Marseille, au Bagne. Ce sont des frères et sœurs médicaux, ils sont regroupés, et ils nous ont aidés à monter la maternité, le laboratoire, la radiologie, et là aussi, l'Évangile est prêché tous les jours. Tous les jours. Voilà, on ne veut pas faire du social pour faire du social. Si c'est que du social, ça ne sert à rien. Le message doit être prêché. Le problème, c'est qu'on ne peut plus aller pour certains endroits sur les places publiques. On ne peut pas aller sur les places publiques. Et notre frère lui-même nous a visités dans un an ou 2 ans passés, et malgré les autorisations, les papiers, quand on a voulu se rendre, vous avez voulu vous rendre à Tambacounda, il n'a pas été possible à certains endroits de pouvoir prêcher, alors que nous avions toutes les autorisations. Il y a une pression, elle n'est pas frontale, elle n'est pas directe, mais on la sent, on la ressent, il peut y avoir des menaces. Et nous voulons, eh bien, non pas qu'on ait peur, mais on veut penser aussi à ceux qui vivent sur place. Parce que les missionnaires, nous, on peut se déplacer, mais les frères et sœurs, eux, sont sur le terrain. Ils vivent là, ils ont leur famille, ils ont leurs parents, ils ont leurs vieux, et je dis ça au sens noble du terme, et ils vivent en communauté, et il faut, eh bien penser à eux. Tout ce qui est scolarisation, je ne vais pas vous énumérer, eh bien, toutes ces écoles qui ont été montées. Vous avez le drapeau sénégalais, vous avez en haut à droite c'est le Niger, en bas à gauche c'est le Burkina Faso, en haut au milieu c'est le Liban. On va continuer. Voilà, vous avez l'école Salomon en haut, sur la droite. Vous avez le centre de cordonnerie à Yumbel, dans les enfants de la rue, à Dakar, en haut à gauche. Ce sont des enfants de la rue, les premières fois qu'on les a vus arriver, 89, le premier jour. Des enfants qui se battaient, qui se mordaient au sang. Ils s'arrachaient les cheveux, ils mordaient le crâne au sang. C'était des enfants de la rue, là. Et qui, pour eh bien, quelques Français CFA, peuvent vous planter le couteau dans le ventre. C'était la violence. Et j'ai entendu l'évangile. J'y étais donc il y a 10 jours de cela. Et j'ai vu ces enfants qui ont grandi. Ce sont des jeunes gens, des jeunes filles. Certaines même ont été mariées de force à des vieux musulmans. Quand je dis des vieux, ce sont des jeunes filles de 13 ans, 14 ans, 15 ans, mariées à des hommes de 45 ans, 50 ans. Hein, ils sont là. Quatrième épouse, la petite jeune. Voilà, pour leurs vieux os, excusez-moi de dire ça, mais c'est ça la réalité. Mais elles sont à Jésus-Christ. Elles n'ont pas choisi leur mari parce qu'on leur a imposé, c'est la famille, mais elles sont à Jésus-Christ. Elles aiment Jésus. Certaines sont même reparties en brousse et ont pu parler à nos animateurs en disant « Mais nous sommes chrétiennes, nous sommes au Seigneur. » Gloire à Dieu. On continue. C'est aussi les programmes de développement pour le social. Nous avons eu des frères et qui le font, qui se projettent en cela. Et par ce témoignage-là, on peut toucher les familles. Tant que ça a été au Cambodge, au Vietnam, nos frères le font. Ils sont surveillés. Vous savez qu'au Vietnam, les murs eh bien, ont des oreilles. Hein. Tout ce que vous dites, même ce que vous parlez avec votre femme, il faut faire attention parce que tout le monde écoute et tout le monde peut, pour gagner quelques sous, vendre son voisin. Et c'est pas facile. Mais alors, sous la couverture du social, le témoignage est rendu particulièrement vers les ethnies minoritaires. Les ethnies minoritaires pour qu'elles entendent le plein évangile. Mais c'est aussi en Afrique. Voilà, c'est bien, on continue. Voilà, vous avez, c'est assez explicite, les photos sont très claires. On va, par exemple, on parle de forage de puits. Je pense à un village à Djarer, en plein milieu Serer, quand nous sommes arrivés dans ce village. Un village complètement désolé. Et quand la saison des pluies est finie, le sable reprend ses quartiers. Et pendant 9 mois, c'est le sable, c'est brûlé, il n'y a plus rien, les gens meurent. D'un jour à l'autre, vous avez 4-5 personnes qui meurent dans le village. C'est comme, comment je veux dire ça, une fatalité, c'est comme on l'entend chez le musulman, Inch'Allah, hein, c'est la fatalité, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Non, en Jésus-Christ, notre destinée peut changer. Alléluia. Et alors nous sommes arrivés et on est allé voir le chef du village, on a parlé avec le chef du village, c'est un bon musulman, il nous a fait un beau sourire, et puis il nous a dit, nous on a besoin d'un puits. Et bien on est allé faire un puits, on est allé creuser un puits, on avait reçu par les AMJ, l'Action Missionnaire Junior, des dons, on est allé creuser un puits, et ce puits était sur le terrain que nous avions. Donc tous les musulmans allaient sur le terrain des chrétiens chercher l'eau. Donc ils étaient bénis par les chrétiens. Et puis on a fait du maraîchage. Et ils pouvaient vivre de ce maraîchage. Aujourd'hui, gloire à Dieu, il y a une église. Le témoignage. Et suite à plusieurs campagnes d'évangélisation, il y a plus de 120 personnes dans l'église. Alléluia, nés de nouveau, engagés. Gloire à Dieu. Et ce, en quelques mois, mais en commençant par, oui, du social. Mais après, il faut quand même prêcher la croix. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'église, bien sûr. On continue ? Voilà, les parrainages, nous avons pris en charge la formation d'enfants, alors que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique. Là, vous avez ces adolescents, en bas, à gauche, en bas, pardon, ce sont les enfants de Yumbel. C'est ces enfants qui se mordaient, qui avaient le couteau, qui avaient fait la prison. Ils sont venus des adolescents, et ils sont parrainés, ils ont été mis à l'école. Certains, trop âgés pour être à l'école, on les a mis dans les formations professionnelles. Et ils ont un métier aujourd'hui, cordonnier, coiffeur, couturière, et ils peuvent vivre de ce métier. Et de cette manière-là, ils peuvent être quelque part indépendants des leurs. Voilà, toutes formes de parrainage. Alors on parle de l'enfance en danger. Vous savez que malheureusement, les premières victimes sont les enfants. Alors, bien sûr, nous voulons sauver hein, toute âme qui vit, du vieillard jusqu'à l'enfant, jusqu'au nourrisson. La mortalité infantile dans bien certains pays, c'est 3 enfants sur 5 meurent avant 3 ans. c'est-à-dire 60%, c'est une folie, mais c'est une réalité. Seuls restent les plus solides, les plus vaillants. Et nous voulons, eh bien, là aussi, prêcher l'évangile aux enfants. Non pas leur faire simplement des clubs de quartier, d'amusement, de jeux. Non, 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 c'est annoncer l'évangile aux enfants. Et je me rappelle qu'avec mon épouse, il nous est arrivé de faire des kilomètres en brousse, d'aller sous l'arbre, au village. Et là, nous avions fait des campagnes. Alors, on revenait et on a soutenu, eh bien, au moins 7 ou 8 villages comme ça, sur 10 dimanches chacun, où on faisait des réunions sous l'arbre avec que des enfants. Les parents avaient entendu l'évangile, ils avaient tous levé la main, mais ils ne venaient pas. Les enfants étaient là. Et on leur parlait du Seigneur Jésus. On leur apprenait des chants. Les enfants, ils sont rentrés à la maison, ils ont prié pour papa, maman, pour le grand-père, pour la co-mère, parce qu'il n'y a pas que la maman, mais il y a aussi les autres épouses du papa. Et je dirais aujourd'hui, dans tous ces lieux, nous avons de belles églises, avec des familles entières, et l'évangile est passé à travers les enfants. Alléluia. À travers les enfants. On rappelle, eh bien, j'étais là, je suis venu pour une réunion, j'étais avec un jeune pasteur, moi, qui commençait, et il me dit, pasteur, voilà, on a deux sujets à traiter. Alors je viens, et puis il me dit, bon, parce qu'il y a un laxisme dans le libertinage, dû à certaines, attitudes des us et coutumes. Il y a des endroits où tous les hommes essayent toutes les femmes et toutes les femmes essayent tous les hommes. Et c'est comme ça. Et c'est normal. Marié ou pas marié. Et ça se retrouvait même, eh bien, dans des soi-disant églises. Et nous arrivons et on me dit, eh bien, il faut enseigner sur le sujet. Et puis après, il faut enseigner sur le baptême dans le Saint-Esprit. Je dis, oui, c'est pas tout à fait le même sujet. Hein. Vous avez compris. Alors, je me suis préparé, prié. Et quand je suis arrivé, il n'y avait aucun adulte. J'avais que des jeunes et des enfants. Bon, alors le premier sujet, c'était délicat d'en parler, mais ils étaient tous au courant. Hein. Donc on a abordé un peu le sujet. Puis après, j'ai apporté sur la personne du Saint-Esprit, simplement. Et j'ai dit, qui, eh bien, veut donner son cœur au Seigneur? Certains avaient déjà donné leur cœur au Seigneur, j'en connaissais quelques-uns. Et je m'adresse à 5 jeunes qui avaient donné leur cœur à Jésus. Et je dis, voulez-vous être baptisés dans le Saint-Esprit? Et ils l'ont été instantanément. Ça a été... je dirais, des fers de lance dans cette église. Des jeunes de 14-15 ans, solides pour le Seigneur. Dans les mois qui ont suivi, on a eu la joie de les baptiser. Aujourd'hui, ils sont tous fidèles. Certains sont même nos enseignants à l'école. À l'école. Béni soit le Seigneur. Voilà, l'enfance en danger, tous ces enfants qui sont là. Et puis, il y a tout ce travail d'accompagnateur à travers les églises officielles. On voit notre frère Serge Renaud en haut, lors d'un séminaire au Congo. On va continuer. Notre frère Aguilar, en haut à gauche. Là, nous avons, en haut à droite, c'est le bureau national du Centrafrique. J'étais avec notre frère Claudio de l'AEP, nous étions ensemble et nous étions avec des Bibles. Plus encore, eh bien, on a travaillé pour pouvoir les aider. Et aujourd'hui, hier même, le président, qui est au centre, m'a appelé en me disant, pasteur, je pars à 800 km à l'intérieur du pays. Alors, il faut savoir que pour aller à 800 km, il m'a dit, j'en ai pour au moins un mois. Parce qu'il y a des coupeurs de route, il faut qu'on se cache, il faut qu'on se fasse oublier. J'en ai pour un mois aller, un mois retour, plus le temps sur place. Ce frère est un frère qui s'approche des 70 ans. Il n'a pas une grande santé, mais il aime son peuple, il aime son église. Il veut aller soutenir les pasteurs qui sont là-bas. Il y a 5 églises en pleine zone musulmane. Pensez à lui. Priez pour lui. En bas à gauche, vous avez le bureau national d'Haïti. On va revenir. Voilà. Et au milieu, cette photo, c'est quoi? Eh bien, ce sont, à cause des pratiques occultes, animistes et musulmanes, vous avez des pays jusqu'à 93% des femmes sont excisées. Elles sont mutilées. Voilà. Parce que dans l'état d'esprit de ces cultures, ou même de la religion, eh bien, la femme n'est rien et elle n'a pas le droit à quoi que ce soit. Donc, toute petite ou adolescente ou à la puberté, donc, elles vont être mutilées. Qui dit mutilées, le jour où, eh bien, il y aura soit un rapport sexuel, soit quand elles vont accoucher, elles seront complètement déchirées, abîmées. Et elles vont devenir femmes fistuleuses. Ces femmes sont des parias. Elles sentent mauvais parce qu'elles font toujours sur elles. On les rejette. Mais Jésus est allé toucher même le lépreux. Et nous voulons, nous, eh bien, que les églises puissent travailler dans ce domaine-là. Non pas pour faire du social. Il y a des ONG qui s'en occupent. Mais leur prêcher l'évangile. Qu'elles retrouvent une dignité. Que le pardon rentre dans leur cœur. Alléluia. Voilà, cette vision-là, comme nous parlions aussi avec les frères tout à l'heure, eh bien, en Centrafrique, c'est toutes ces femmes chrétiennes qui ont été violées par les musulmans avant qu'ils fuient le pays. C'est une arme de guerre, le viol. Une arme de guerre. De telle manière que beaucoup d'entre elles, aujourd'hui, se retrouvent avec des enfants et ils les appellent les bâtards. Et même le mari de ces épouses, pour certaines mariées, eh bien, ont abandonné leur épouse parce qu'ils ont honte. Je dirais, moi j'ai honte, j'aurais honte d'être un homme agissant comme ça. Mais ces femmes sont des pauvres victimes. L'enfant est une victime. Il n'a pas demandé d'être né comme cela. Et elles sont doublement victimes parce qu'elles sont en plus abandonnées. Et le Seigneur nous demande aussi de nous occuper de ces personnes-là. C'est cela aussi la mission, de toucher des peuples non atteints. Je voudrais juste vous dire, pour parler de l'Afrique, je ne connais pas assez l'Asie pour en parler. Mais ce que je dis pour l'Afrique est la même chose pour l'Asie. En Afrique, il y a 54 pays, officiellement. Mais il y a 3000 peuples, 3000 langues, 3000 cultures différentes. Et aujourd'hui, il y a encore plus de 2000 langues qui ne connaissent pas le plein évangile. Je parle pas simplement d'avoir la Bible, mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Notre frère connaît bien le Burkina Faso. J'y suis allé de nombreuses fois. Nous avons, au niveau des assemblées de Dieu, pour ne parler que des assemblées de Dieu, mais dans d'autres mouvements évangéliques, eh bien, gloire à Dieu pour cela, mais nous avons 4200 pasteurs, sans parler des prédicateurs, eh bien, locaux. Alors, il y a un nom phénoménal. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'étais au Niger avec les missionnaires, et nous étions en brousse, on avançait, et puis on arrive au village. Et là, on commence à descendre, à parler aux gens. Les gens disent, mais vous êtes au Burkina Faso. On est passé de la frontière sans savoir. Et nous, on prêche l'évangile. Et les gens disent, mais on n'a jamais entendu parler que Jésus existait. On n'a jamais entendu parler. On est au Burkina Faso, là où il y a des églises partout. Il y a des endroits reculés où les gens ne savent même pas que Jésus existe. Ce ne sont pas des musulmans, donc sinon ils pourraient penser que Jésus est un prophète. Ce sont des animistes, avec un sorcier qui était là, qui essayait de nous jeter des sorts pendant qu'on prêchait. Mais bon, c'est peine perdue pour lui. Hein. Jésus est plus fort, gloire à Dieu. Hein. Voilà, il y a des coins comme cela, il y a des endroits... Et il faut aller chercher ces hommes, ces femmes, assis dans l'ombre de la mort. Alors, nous avons aussi un rapprochement avec nos frères eh bien, de l'AEP, qui depuis des années travaille au pays parmi les peuples persécutés. Et nous travaillons de manière encore plus étroite avec eux, parce que dans bien des pays où nous sommes, eh bien, nous sommes dans des zones et dans des peuples, vers des peuples non atteints encore. Et s'ils ne sont pas atteints, eh bien, c'est simplement parce que c'est très difficile de s'y rendre. Alors, vous pourriez vous poser la question, je la pose pour que vous n'ayez pas à la poser, mais pourquoi nos frères du pays n'iraient-ils pas vers leurs proches, leurs prochains, leurs concitoyens? Parce que, oui, ils sont du même pays au niveau géographique, voire administratif, mais ils ne sont pas du même peuple, ils ne sont pas de la même langue, ils ne se comprennent pas, ils n'ont pas les mêmes cultures, ils n'ont pas les mêmes dieux. Et puis peut-être même ces mêmes peuples ont été ennemis auparavant. Et ils n'accepteront pas, ces peuples qui ne connaissent pas l'évangile, qu'un prédicateur de l'évangile de l'ethnie ennemie vienne les voir. Ils accepteront plus facilement qu'un étranger vienne. C'est la raison pour laquelle nous travaillons pour former ces frères à devenir eux-mêmes missionnaires dans leur propre pays. Mais comprenez, ils vont vers un autre peuple. Il y a quelques années de cela en arrière, je voyais un pasteur au Sénégal, un sérère, il venait vers moi et il s'est mis à pleurer. Et c'était un frère aguerri, un homme expérimenté, mais il l'avait envoyé chez les Mandingues. C'est un autre peuple. Ils n'ont pas du tout les mêmes croyances, c'est pas un peuple musulman. Qui ont leur propre Dieu, leurs propres idoles. Et il me disait, mais je suis étranger dans mon propre pays, je ne comprends pas leur langue. Quand ma femme va au marché, les prix s'envolent parce qu'elle ne parle pas la langue. Et ce sont des concepts qui peut-être nous échappent. Et pourtant, ce frère a duré. Aujourd'hui, il y a une belle œuvre là-bas. Mais parce qu'on l'a préparé, on l'a formé à être missionnaire dans son propre pays. Voilà un petit peu donc tout ce que je pouvais dire très brièvement. très succinctement, la mission, c'est tout simplement la prolongation de l'Église. L'Église est là, elle brille au sein des ténèbres, alléluia, mais elle se prolonge au loin, et des hommes, des femmes ont répondu, ce ne sont ni des aventuriers, ce ne sont pas des personnes spécialistes en eux-mêmes, bien qu'à un moment donné, c'est vrai, le métier s'apprend. Bien sûr qu'on a après, eh bien, on sait des choses qui rentrent dans notre vie. Je dirais même, on a appris à nos dépens. Mais on a appris pour ne pas recommencer nos erreurs. Et l'œuvre va de l'avant. Aujourd'hui, la mission, ce n'est plus, eh bien, nos frères aînés, les pionniers avec le casque colonial qui partaient où il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a des églises officielles dans les pays et nous devons travailler dans le respect de ces frères. Nous sommes chez eux, parmi eux, avec eux, et je dirais même sous leur autorité. C'est cela la mission aujourd'hui. Et nous travaillons au protocole avec ces églises, et après nous allons appuyer, les aider, faciliter leurs efforts, autant que faire se peut. Et chaque pays, chaque peuple est différent. Alors quand parfois on entend nos politiques qui parlent de l'Asie, ou qui parlent de l'Afrique, pour moi de dire l'Afrique, c'est comme presque, le mot est un peu fort, comme une injure. Il n'y a pas une Afrique. Quand on parle de l'Europe, l'Europe c'est géographique, mais est-ce que l'Europe elle-même existe? Vous comprenez? On pourrait le mettre à plusieurs niveaux, sur plusieurs strates de réflexion. Il n'y a pas une Afrique. Il n'y a pas un Proche-Orient. Il n'y a pas une Asie. Ce sont des continents géographiquement, mais avec des milliers de peuples, des milliers de langues toutes différentes les unes des autres et des cultures différentes. Ne serait-ce que nous en France, malgré notre langue officielle, malgré une seule république, un seul drapeau, mais il y a des différences de perception, parfois de région par rapport à d'autres régions, n'est-ce pas ? Et de culture même, et de sensibilité, et on les respecte. Et pourtant nous sommes sous une seule et même chape, voilà, de protection. Voilà ce que je voulais partager brièvement. Le plein évangile est apporté, et quand les frères partent sur un champ missionnaire, que ce soit même nos frères, avant on les appelait les assistants de mission, mais pour nous ce sont des missionnaires, ce ne sont pas simplement des assistants de mission, ce sont des missionnaires, nous leur demandons eux aussi d'être aguerris dans la parole de Dieu. On ne peut pas partir en mission avec des problèmes, parce que les problèmes qu'on a en France vont devenir de gros problèmes au loin. Il faut qu'on parte bien solide, excusez-moi l'expression, hein, mais dans nos bottes, assis dans la parole de Dieu, dans la doctrine, parce qu'on a besoin d'être nourris nous-mêmes. Tout à l'heure, j'ai chanté « Merveilleux petit cœur ». Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas chanté ces chœurs. Mais avec bonheur, je les ai chantés. Parce que bien souvent, dans les pays où je me trouve, je ne parle pas de la capitale, je parle à l'intérieur des pays, on chante dans les langues locales. Et je ne comprends rien. Dernièrement, je vous dis, j'étais à Madagascar, on a chanté en malgache, hein, en magalassi, en malgache. Bon, c'est très joli. Je disais amen, amen, par la foi. Hein. Mais je ne comprenais pas un mot de ce qu'il me disait. Pas un mot. Mais une fois, deux fois, dix fois, cent fois. Il faut que nos missionnaires soient renouvelés. Il faut qu'ils se renouvellent dans la parole de Dieu eux-mêmes. Il faut qu'ils aient une discipline. Une discipline devant la parole de Dieu, une discipline spirituelle. Une discipline de gestion de vie. Pour ne pas s'épuiser. Au début... nous avons formé une équipe au Sénégal. À un moment donné, eh bien, de nos frères nouvellement venus partaient tout azimut pour faire plein de choses. On lui a dit, il faut que tu ailles doucement. C'est pas, doucement ne veut pas dire ne rien faire, mais mesure tes efforts. Parce que tu vas t'apercevoir que le soleil tape fort. Et puis, mieux encore, il y a plus que le soleil. Hein. Il y a la culture, il y a les habitudes. Et notre but n'est pas d'imposer, d'importer une culture française, mais c'est de prêcher Christ. On ne vient pas apporter autre chose. N'est-ce pas? Voilà. J'ai brossé très brièvement ce message. J'aurais pu vous parler de grosses campagnes d'évangélisation. On va prêcher l'évangile dans des endroits incongrus et d'un coup on va voir 500, 1000 personnes, 2000 personnes, voire plus à s'approcher. Puis d'autres endroits, on a tout préparé et on n'a que 20 personnes, parfois même on a prêché dans la nuit noire. Je me rappelle même, notre frère nous avait visité il y a quelques années au Sénégal, à Diarao. Là, il prêchait, c'est la capitale de la sorcellerie, de l'animisme en pays sérère. Même les musulmans ont voulu s'implanter et il y a le sang a coulé, pour vous dire. Et on a fait des campagnes dans la nuit la plus sombre. Alors on avait, nous, on éclairait avec les phares des 4x4. Hein. Voilà, il n'y a pas de lampadaire, rien du tout. On met les phares de 4x4, on fait tourner le moteur, on essaie d'éclairer. Voilà, on essaye surtout d'éclairer le prédicateur pour qu'il puisse lire sa Bible et qu'on puisse le voir dans la nuit la plus sombre. Mais il y avait des Nicodèmes de partout, tous cachés, tous cachés. Et à la fin de la réunion, quand on a fini la réunion, on éteint les lumières, on rentre le matériel, on met ça dans les pick-up, dans les 4x4, on range. Et là, il y a les gens qui viennent et qui nous disent, on tire la veste ou la chemise tout au moins, et de dire, eh bien, je veux donner mon cœur à Jésus. Mais je ne veux pas que les gens le sachent. Je veux donner mon cœur à Jésus. Voilà. Les gens ont faim et soif. Et nous ne voulons pas piétiner ces semences. On ne veut pas eh bien, dire, oh, ça ne va pas durer. Non, non. Eh bien, dans ce Adiarao, un jeune, quelques temps plus tard, suite à la prédication de ses campagnes, notre frère est venu. Notre frère est venu aussi. Eh bien, ce jeune a donné son cœur au Seigneur. J'ai eu la joie de le baptiser. Aujourd'hui, c'est notre meilleur enseignant à l'école, Abraham. C'est le meilleur enseignant. Et il y a 10 jours de ça, je le voyais, je l'ai pris dans mes bras, j'étais tellement heureux. Pour moi, c'est comme une gloire. C'est une gloire dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce. Pour une âme, on est allé la chercher. Il est là. Et maintenant, c'est lui qui enseigne les enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis à votre disposition. Comme je l'ai dit à votre pasteur, vous avez un citron, il faut le presser, profitez. Hein. Voilà, je suis prêt à répondre autant que faire se peut. À vos questions, il n'y a pas de questions anodines, toutes les questions sont enrichissantes. Alors je suis prêt à répondre si je peux répondre, bien sûr. Ouais. Il y a des choses qui me paraissent tellement logiques, mais qui peut-être pour vous, eh bien, vous dites, mais je ne comprends pas, ça peut arriver. Hein. Voilà.
Oui, j'ai une question, c'est peut-être pratique, c'est... Pour un mari musulman qui a plusieurs femmes et qui se convertit, comment il fait après pour...
Ça, c'est une question très pointue. Ah oui. Oui, mais ça, c'est très, très bien. Alors, je vais vous répondre sans entrer dans les détails. Le mari a une femme, deux ou trois femmes. Il faut savoir qu'ils travaillent, ils vivent en communauté. Hein. Le mari vit chez ses parents. D'accord, le mari vit chez... Je parle au village. Hein. Il vit chez ses parents, avec son père, sa mère, si vivants ils sont encore, et les co-mamans de son papa. C'est tout un ensemble. Hein. Ils vivent comme ça. Là, je parle pour le monde musulman. Donc, tout le côté sahélien. Et je parle pour l'Afrique. L'Afrique noire. Je ne peux pas vous parler du Proche-Orient, ni pour l'Asie. Je ne suis pas capable de répondre à cela. Pour l'Afrique, de ce que je sais... Les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les nationaux donc du pays, se sont penchés sur cette situation. Il y a eu les missionnaires, puis après ça a été les pasteurs nationaux qui se sont penchés sur cette situation. La pensée est celle-ci. Il est le musulman se convertit. Est-ce qu'il va rejeter les autres femmes en garder qu'une seule? S'il les rejette, que deviennent-elles? Que deviennent-elles? Elles vont être des parias. Il a payé la dot pour avoir sa femme à la belle famille. Ça voudrait dire que la belle famille doit rendre la dot. Mais elle l'a mangée depuis longtemps, la dot. La belle famille ne récupérera pas la femme bafouée ou abandonnée. Donc elle va se retrouver là, entre deux communautés. Elle ne serait plus partie prenante de la communauté de son mari ou de son ex-mari, et encore moins de celle de sa famille qui dira, mais elle nous fait honte. Donc, les pasteurs nationaux de ces pays ont dit, non, il faut que le mari puisse toujours garder ses femmes. Vous comprenez? Elles sont ses épouses, il n'y en a pas une qui est plus épouse que l'autre. Elles sont les épouses. Il doit subvenir à leurs besoins. Et ça rejoint le texte d'un Timothée 3 par rapport à l'ancien, qu'il soit mari d'une seule femme. On ne parle pas d'un veuf. On parle de quelqu'un qui pouvait avoir une ou deux ou trois femmes. S'il a une quelconque responsabilité dans l'église, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Donc ses frères n'auront jamais aucune responsabilité dans l'église. Ils seront frères, ils pourront prendre la Sainte-Cène, ils pourront louer le Seigneur, mais ils n'auront pas de responsabilité dans l'église de par leur statut, leur condition. Voilà, à la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est voilà, la position des pasteurs nationaux. On retrouve du Sénégal au Burkina Faso, le Mali, le Niger, dans ces pays où il y a l'islam. Cette position-là, au Tchad, c'est la même chose. Voilà. Les frères qui ont posé dans le statut de l'Assemblée de Dieu, c'est mis en place comme cela. Je ne dis pas que c'est bien, mais ils ont essayé de trouver la solution la moins dramatique, surtout pour les femmes. Voilà. Et qui plus est pour les enfants qui sont là. Hein. Vous comprenez ? Le gardien de l'église de Fatik, quand l'église de Fatik s'est agrandie et embellie, il y a eu un gardien. On a pris un musulman. Le musulman, ben, il était gardien, et les réunions du soir, il entendait le message. Il s'est converti. Alléluia. Il s'est converti. Il y avait deux épouses. Ces deux épouses, elles sont venues au baptême du mari. Au message de l'évangile, elles se convertissent toutes les deux. Et aujourd'hui, il y a le mari et les deux épouses. Pour nous, bien sûr, à nos yeux, ça nous choque. Parce que nous ne sommes pas dans cette culture-là. Ça, c'est le choc culturel. Mais, je vais pousser le bouchon un peu loin, mais si vous avez Alcana, avec ses deux épouses, Anne et la première épouse, je boule la langue, Pénina. Voilà, Pénina et Anne. Hein? Voilà, Anne, la maman de Samuel. Hein? D'accord ? Bon, la comparaison s'arrête là, hein? D'accord? Je n'ai pas abordé le sujet des chocs culturels, des contextes. Ça, c'est par rapport aux missionnaires. Mais je n'ai pas venu parler que des missionnaires, j'ai parlé aussi de la vision de la mission. Bien sûr, les chocs culturels, ils sont là aussi. Le choc de la... Comment on apprécie le temps, hein? Nous, en France, on marche à la montre. Voilà, eux, ils marchent au temps. C'est pas pareil. Mais c'est pas un péjoratif. C'est comme ça. Nous sommes chez eux. Et je disais dernièrement à nos missionnaires, à l'équipe missionnaire qui était au Sénégal, je leur ai dit, je vous rappelle que nous sommes que des missionnaires. Et j'ai appuyé sur en disant, nous sommes que des missionnaires. C'est-à-dire que même si on est là, on est heureux, on est épanoui, et ainsi de suite, nous sommes chez nos frères et sœurs. Nous sommes chez eux. C'est comme quand on dit à quelqu'un qui vient nous voir, sens-toi comme chez toi. Fais comme chez toi. N'oublie pas que tu es chez moi aussi. Vous avez compris. Avez-vous d'autres partages? D'autres questions? D'autres témoignages?
Et les enfants de toutes ces femmes, comment ça se passe pour leur éducation?
Oui, alors merci pour cette question. Je vais y répondre en l'élargissant un peu plus. Quand une musulmane se convertit, par exemple, ça a été le cas de nombre de fois, et gloire à Dieu, ça continue, hein, voilà. Elle ne va pas rentrer à la maison en disant « Bonjour chérie, pardon, je suis maintenant enfant de Dieu », et ainsi de suite. Parce que quand elle rentre à la maison, comme je vous ai dit, elle trouve son mari, mais elle trouve aussi les co-épouses, elle trouve aussi le beau-père, la belle-mère et les co-belles-mères. Avec tous les descendants et les effets de génération. Une famille, c'est des fois 30 membres, 40 membres. Dans la communauté, on vit dans la communauté. Donc il y a une pression terrible. Ça veut dire aussi que si ce n'est pas elle qu'on va pouvoir faire plier, on va faire l'oppression sur les enfants. Et je rejoins. On va les priver d'aller à l'école. Ils vont être les petites causettes de la famille. Les enfants des chrétiens ou des chrétiennes. C'est eux qui feront... Eh bien, le service de tout le monde. C'est un prix à payer. C'est la raison pour laquelle que nos frères, et particulièrement nos sœurs, après avoir donné leur cœur au Seigneur, ont besoin vraiment d'être remplis par le baptême du Saint-Esprit, être dans cette onction-là. Nous avons vécu ces grâces-là dans beaucoup de pays. Pour ma part, je l'ai vécu au Sénégal avec mon épouse, ou lors d'une réunion avec les femmes en langue sérère. 60% de l'auditoire a été baptisé dans le Saint-Esprit. Ces femmes sont reparties, elles ont rejoint le parking là, mais c'était le parking charrette. L'âne avec la charrette, on met 10 femmes dessus, elles ont 5 heures de route avec l'âne, voilà. Elles rentraient au village en chantant et en parlant en langue. Elles n'avaient plus peur. Plus peur de passer entre deux arbres où au pied de l'arbre il y a des fétiches. Et je vais parler, bon, il n'y a pas d'enfant, la petite elle ne va pas comprendre, mais si la femme, selon ses règles, elle peut passer ou elle ne peut pas passer, si elle est jeune, si elle est vierge, si elle est enceinte, on peut passer à tel arbre, tel arbre. Ce sont des secrets de femme. Mais remplies de la parole de Dieu, remplies de l'Esprit, elles sont. C'est comme un voile qui sort qui se dérobe à leurs yeux, et elles peuvent voir maintenant la grâce de Dieu et dire « Je n'ai plus à craindre quoi que ce soit. Je ne suis plus dans la crainte. » Prêcher l'Évangile, c'est bien sûr ouvrir la parole de Dieu. Ça, c'est non négociable, ça. Hein. La parole de Dieu, on prêche la croix. Mais après, c'est comme la graine qui va pousser. Il faut mettre un tuteur à côté. Il faut les suivre. Et pour nous, les hommes, ce que je vous raconte là, ce n'est pas moi qui l'ai découvert. Mon épouse, assistée d'autres sœurs, assise au village, en train de décortiquer les cacahuètes, les arachides, elle parle, voilà, elle apprend, et les langues se délient, et les femmes parlent. Et c'est comme ça qu'elle a découvert certaines choses. C'est un autre monde. Là, je vous parle du monde de l'Afrique sahélienne. Voilà, l'Afrique sahélienne. Quand nous avons fait une campagne d'évangélisation 2008 sur 3 semaines au Congo, nous étions ensemble, votre pasteur et moi-même, et puis d'autres serviteurs de Dieu, dans tout le pays, on a fait 15 campagnes sur 15 jours en simultané. Et je me rappelle j'étais à Owando, au nord du Congo Brazzaville, et j'étais dans le stade. J'avais 300 personnes qui étaient là, et les quelques serviteurs de Dieu qui étaient là. Et je prêche l'Évangile, tout mon cœur, voilà, la réunion se passe bien, le lendemain on recommence. Et là, à ce moment-là, il y a un homme qui traverse la foule, qui arrive et sur l'estrade dépose un paquet. Et il y a le sang qui est coulé. Et personne ne voulait y toucher. Je regardais les frères, j'ai dit, mais il faut enlever ça. J'ai dit, ça c'est un sortilège. Ils sont venus pour jeter un sort, ça c'est le cœur d'un animal, un truc comme ça. Et en effet, c'était ça, hein, c'était cela. Et personne. Alors ils sont allés chercher cet homme, qui était un sorcier, qui était venu pour troubler, et ils lui ont dit, tu enlèves ça. Bon, il est parti. Et j'ai prêché la parole de Dieu, comme tout prédicateur. Et voilà que je descends d'estrade pour prier pour les malades. Et là, on sent une oppression terrible. J'avais même plus la force de lever les bras pour prier pour les malades. Comme si quelqu'un me tenait les bras comme ça. Mais au nom de Jésus, j'avais plus le son qui sortait de ma bouche. Comme si j'avais pas de souffle dans la foi était là. Hein. J'ai dit, au nom de Jésus. Et le Seigneur a guéri. J'en ai parlé aux frères. Ils m'ont dit, oui, on vous entendait plus. Mais ça sortait plus. Non pas que j'étais aphone. Non pas que j'étais fatigué. Non. Et bien, un combat spirituel, des oppressions. On est au milieu de choses démoniaques, mais Christ a renversé toutes ces puissances. Il est vainqueur. Voilà. Un jour, j'arrivais dans un village, avec le 4x4, après de longues heures, 5 heures de route, j'arrive au village et il y a un jeune pasteur. Il arrive, à peine je descends dans la voiture, il me dit, pasteur, j'ai un problème. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit, les vieux du village, pas les vieux de l'église, les vieux du village, ils aiment tellement l'église, ils ont mis des fétiches tout autour de l'église pour la protéger des démons. Il m'a dit, je ne sais pas comment faire. Et moi, je lui réponds, dans mon langage, en tant qu'ancien militaire, j'ai dit, tu sors la grosse artillerie. Et il me dit, c'est quoi ? Au nom de Jésus. Amen. Tu le fais le lance-flamme, tu lances le lance-flamme, au nom de Jésus, pas de quartier. On veut tous les sauver, hein, vous comprenez l'expression. Hein, voilà. Et quelques temps plus tard, il m'appelle, il me dit, pasteur, j'ai un problème. J'ai dit, mais toi, t'en as beaucoup des problèmes. Hein. Il me dit, Je suis au village, j'ai 1000 personnes, je ne sais plus quoi en faire. Mais je dis, gloire à Dieu, loue le Seigneur. Voilà, il avait pris courage. Il avait pris courage. C'est ça le travail. Ce n'est pas que nous nous fassions, mais c'est qu'eux se lèvent. Nous, nous sommes derrière.
Gloire à Dieu.
Merci. Merci pour votre attention. Amen. Je ne veux pas vous épuiser. Je voudrais le dire au fond du cœur, et Dieu entend toutes choses. Merci pour vos prières. Et merci pour cette église, pour l'œuvre de Dieu qui s'y trouve. Et si nous pouvons aller de l'avant, si nos frères peuvent aller de l'avant dans les pays, que ce soit au Liban, que ce soit en Israël, que ce soit en Asie, c'est parce que derrière il y a des intercesseurs.
Gloire.
Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout.
Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu.